Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, on rencontre Claire Stride. Bonjour Claire.
Bonjour Lucie.
Alors, j'avais envie de t'interviewer puisque j'ai une participante à une de mes formations qui m'a parlé de toi et du coup, on a eu l'occasion de se rencontrer. Et ton parcours me semble très intéressant et donc j'aimerais bien que tu puisses nous en parler un petit peu plus. Est-ce que tu peux commencer à te présenter peut-être d'abord qui tu es? Comment tu te présentes?
Donc, moi, je m'appelle Claire Stride. Aujourd'hui, j'ai plein de casquettes. On en reparlera. Je suis essentiellement consultante en intelligence relationnelle et coach pour les gens bizarres. Voilà, c'est comme ça que les gens me définissent. Voilà, j'aime bien, c'est sympa. Il faudrait que je pense à le mettre sur une carte. Moi, je suis là pour aider les gens à être bien avec eux-mêmes, pour être bien avec les autres, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au travail. Donc, ça va de la formation, le conseil en entreprise, jusqu'au coaching particulier. Je fais aussi des one-woman shows pour expliquer la neuroscience et j'ai écrit un livre sur l'hypersensibilité. Je peux vous le montrer tout de suite là maintenant. Hop, petit livre. Pleinement moi, hypersensible, différent. Et c'est cool. Et c'était très, très important de dire que c'est cool d'être complètement hors norme. Livre que j'ai tout publié sur Amazon parce que ça me correspond de faire les choses moi-même quand j'ai décidé de le faire. Et livre pour lequel je fais encore peu de publicité et qui a pour l'instant de très jolis retours. Donc voilà, c'est le premier d'une série, j'espère.
Ok, donc on pourra mettre le lien en description de la vidéo, par exemple, pour pouvoir le retrouver. Donc, toi, c'est le côté vraiment hypersensible qui est important chez les profils atypiques, le fait de l'assumer et de bien vivre avec.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, dans la famille des profils atypiques, qu'est-ce que tu englobes? Quels sont tous les profils que tu traites?
Alors, dans ce qu'on appelle la neurodiversité, en fait, dans ces profils atypiques, moi, je travaille avec ce qu'on appelle la constellation des 10, donc dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, dysorthographique, j'ai oublié les 10 que je viens de t'énumérer, dyslexique, enfin, tu vois, voilà, tout le monde est 10. Tu as dit dysgraphique, oui, voilà, tout ça. Ensuite, les personnes avec troubles de l'attention et du comportement, ce qu'on appelle les hyperactifs, hein, attention à ce qu'on met derrière ces étiquettes. Ensuite, les hauts potentiels intellectuels, hauts potentiels émotionnels, syndrome d'Asperger. Et dans la neurodiversité, il y a tout le spectre de l'autisme, mais moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Par contre, voilà, la neurodiversité, c'est vraiment tout ça. Et moi, je travaille avec les troubles 10, syndrome d'Asperger, au potentiel intellectuel et émotionnel, donc surdoué, zèbre, voilà tous les noms qu'on peut trouver aussi sur Internet ou dans la littérature.
Mmh. Ça fait combien de temps que tu connais tous ces profils?
Ça fait longtemps, parce que moi, j'ai été diagnostiquée double 10 et HP à 6 ans. Mmh. Donc, moi, je suis dyslexique, dyscalculique et au potentiel. Donc, j'ai découvert ce monde-là quand j'étais au CP. Donc, ça, c'était hier, hein, on est d'accord, ouais. C'était juste hier. et du coup, bah, j'ai grandi avec sans trop savoir quoi en faire, en fait. Donc, je connaissais les mots. De là à comprendre le fonctionnement, c'était une autre histoire. J'arrivais, moi, à me bluffer, à me biaiser pour réussir à l'école en fait et donner aux autres ce qu'ils voulaient pour qu'on me fiche la paix. Mais c'est pas pour autant que j'étais heureuse. Donc voilà. Donc je savais que j'étais différente. Je sais que je suis différente depuis toujours. Maintenant, quoi en faire? Ça a pris une bonne part de ma vie pour arriver à le comprendre.
D'accord. Et donc du coup, c'est quelque chose d'hyper profond chez toi et t'as besoin de partager de travailler avec cet aspect-là.
C'est ça. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que depuis très, très longtemps, j'ai aidé des personnes comme moi. Au début, j'avais pas fait le lien. Hein. Tu sais, c'est toujours quand on a le truc sous le nez qu'on le voit pas. Mmh. Et j'ai commencé à aider des potes à l'école quand j'étais au collège. Donc, tu vois, en cinquième, donc ça date. Et ce sont toujours des personnes atypiques qui sont venues à moi. Mais comme on se comprenait, c'était facile. En fait, je voyais pas en quoi ils étaient différents. Donc, j'ai commencé à aider des potes au collège, au lycée. J'ai commencé à donner des cours particuliers. J'étais au lycée. J'ai bossé pour des organismes privés de cours particuliers et à chaque fois, on me refourguait tout ce dont personne ne voulait. Et donc, que des profils atypiques, mais ça allait loin hein, avec des jeunes qui se scarifiaient, avec des personnes qui étaient au bord du suicide ou qui étaient en grosse addiction de drogue ou autre substance. Et comme ces gens-là, personne n'en voulait, moi, je m'y suis intéressée puis j'arrivais à communiquer avec eux. Et puis après, j'ai enseigné et tout. Et pareil, j'ai donné mon attention à ces gens-là en particulier, quitte à complètement délaisser les intellos du premier rang. Mmh. Et un jour, je me suis rendu compte que bah ouais, j'étais vraiment faite pour accompagner les gens comme nous.
Ouais. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur l'automutilation chez les zèbres? C'est un sujet que j'ai pas pu aborder moi dans la série de vidéos que j'ai faite. Et je crois que ça revient assez souvent.
Ça, c'est une comment dire l'automutilation ou la souffrance. Enfin, je veux dire le fait de s'infliger des souffrances, qu'elles soient physiques ou pas, c'est un trait caractéristique hein, chez les zèbres, chez les personnes neuroatypiques. Tu vas le retrouver beaucoup chez les dyspraxiques aussi. C'est comment dire. Alors moi, c'est un truc que j'ai jamais pratiqué personnellement. Par contre, je dis pas que j'y ai pas pensé, mais c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Après, j'ai peur de me faire mal. Donc voilà, du coup, c'était mon frein. Mais toi, les jeunes avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment une façon de se punir. C'est à la fois une façon de se punir et à la fois une façon d'essayer de revenir à soi. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le fait de se faire du mal, de s'infliger du mal, c'est toi qui te le fais, donc tu en es responsable. Et quelque part, c'est une façon de te reconnecter à ton corps. Tu vois, comme tu es tellement un peu perdu, dispersé, c'est un moment de revenir à toi. Il y a cette espèce de peine dans l'automutilation, la scarification, qui est à la fois j'ai honte de le faire, mais en même temps, ça me ramène à moi. Tu vois, ça, c'est un sujet, je pense, à approfondir avec des spécialistes. Moi, je ne suis pas allée creuser davantage non plus.
Ok. Ouais, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu comme pour aligner la souffrance physique sur la souffrance morale, mentale. On souffre mentalement, on ne comprend pas pourquoi c'est pas visible. Et du coup, à partir du moment où il y a une plaie, ça permet de comprendre pourquoi on souffre.
Alors, tout à fait, mais ça reste quelque chose de très personnel. Parce que si tu remarques bien, les personnes qui pratiquent ne montrent pas leur plaie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intime et personnel. Donc oui, c'est aussi voilà, voir en extérieur ce qui nous bouffe à l'intérieur.
Ok. Donc, tu sais depuis toujours que tu es un profil atypique. À partir de quel moment est-ce que tu as osé incarner une vie professionnelle atypique, si on peut dire ça comme ça?
Ça, c'est incarner une vie professionnelle atypique. Je crois que je l'ai souvent fait sans l'assumer. Donc, tu sais, je passais un petit peu en mode rebelle pour les trucs. Enfin, je vois dans ce moment. Moi, je suis ingénieure d'études à la base en histoire. J'ai enseigné pendant très longtemps. Et autant j'adore enseigner, autant le système éducatif, comment te dire que j'y ai pas vraiment trouvé ma place. Donc, jouer un petit peu ma rebelle. J'étais une sorte de super-héros en classe. Et après, avec l'administration, c'était l'horreur. Mais c'était pas assumé. On va pas se mentir, c'était pas assumé. J'étais plutôt vraiment en mode rebelle, mode contre. Ça allait pas du tout. Vraiment, vraiment totalement assumée, c'est au moment où je me suis mise en indépendante, il y a déjà 7 ans que je suis à mon compte, et 7 ou 8 ans, et que j'ai décidé, voilà, j'ai commencé à me mettre à mon compte en étant historienne indépendante, ce qui a fait mourir de rire les gens de l'URSSAF que j'ai rencontrés, en se disant ça n'existe pas, et là c'était chouette pour moi, parce que créer un truc qui n'existait pas, c'était top, donc bon, c'était pas viable économiquement, mais c'est pas grave, tu vois, c'était mon premier pas de dire je suis différente et je l'assume. Et pour une fois, c'est pas le « je suis différente et je t'emmerde », tu vois, c'est vraiment « je suis différente et je l'assume ». Ça te plaît, c'est cool, ça te plaît pas, c'est pas grave. Et ça, c'était important pour moi. Après, il y a eu tout le cheminement, en fait, dans le coaching. Ma formation en neurosciences m'a aidé à mieux me connaître encore davantage et jusqu'à ce que je rencontre des gens d'une association sur les 10 qui m'ont dit voilà, est-ce qu'on pourrait avoir votre témoignage, et je me suis rendu compte que je me présentais jamais comme étant atypique, enfin comment dire, je mettais jamais les mots 10 ou HP, tu vois, je me présentais juste voilà, je suis un petit peu différente, je suis un petit peu marrante, mais j'allais pas dans le fond du sujet. Ça m'allait bien d'être la fille un petit peu incontrôlable, ingérable, un peu borderline, un peu bizarre, quoique franchement, je suis toujours restée soft. Mais de là à dire, voilà, bonjour, j'ai un profil atypique, j'ai un profil neuro-atypique, donc c'est vraiment dans mon cerveau que ça se passe. Et donc, c'est postulat de départ, ça fait un an et demi, 2 ans.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire, quelque part, de faire ton coming out?
Ouais, voilà, c'est exactement ça, c'est le gros coming out. Ça m'a surprise de voir à quel point ça libérait les gens. De voir quand les gens m'écoutaient, comme les personnes atypiques, les familles, les profils de jeunes personnes, quand ils m'écoutaient avec cette étiquette-là, ça changeait tout pour eux. Autant, tu vois, je pouvais le dire dans l'intimité d'un cours particulier ou d'une classe ou d'un accompagnement chef d'entreprise, je ne l'avais jamais dit devant 50, 80, 100 personnes. Et de voir que c'était important pour les gens parce que justement, c'était une identité reconnue, ça, tu vois, je n'y avais pas pensé. Et donc, j'étais contente d'être ça et contente de pouvoir être un des porte-parole de cette catégorie de population.
De cette communauté.
Cette communauté.
C'est un peu une petite famille maintenant, j'ai l'impression.
Complètement.
Ok, est-ce que tu peux nous parler de ton côté multipotentiel ? Moi, ça m'inspire quand je vois ton site internet clairestreet.com. On voit que tu es une personne et que tu as plusieurs projets, tu as plusieurs casquettes et j'aime bien la façon dont tu le présentes parce que je trouve qu'il y a un lien entre ces projets. Donc, est-ce que tu as toujours fonctionné comme ça avec ce côté multicasquette? Comment est-ce que tu vis ton côté multipotentiel qui s'intéresse à plein de choses et peut-être une question que les gens peuvent se poser. Les non-neuro-atypiques. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps avec toutes ces casquettes et tous ces projets?
Ok, alors, ouais, j'ai toujours fait comme ça. Je me suis toujours ennuyée, en fait. Donc, il a toujours fallu que je fasse plein de choses en même temps. Je me revois encore petite à l'école primaire en train de bouquiner pendant que les autres faisaient les devoirs. Il m'a fallu un peu de temps pour mettre les lettres dans l'ordre et les chiffres dans l'ordre, mais dès que j'ai réussi, tu vois, j'étais insatiable. Donc, j'ai toujours eu besoin de faire plein de choses en même temps ou de rêver. Tu vois, c'est le truc, voilà, c'est soit tu m'intéresses et j'écoute ce que tu racontes et tout, soit tu m'intéresses pas et donc je vais partir dans mon monde à moi, hein, et mon monde à moi, il est chouette parce que j'ai eu plein d'aventures à l'intérieur. Oui. Donc ouais, tout le temps en train de faire toujours plus, pas toujours plus pour épater les gens, mais toujours plus pour me rassasier, en fait. Je fais pas toujours plus pour les autres, c'est vraiment pour moi, parce que j'ai soif de connaissances et soif de connaître tout ça. Donc j'ai fait un triple cursus dans les études supérieures. J'ai toujours et bossé et fait du bénévolat et accompagné machin blabla tout le temps. Et ce qu'on m'a toujours dit, c'est que j'étais dispersée. Voilà. En gros, les paroles des gens bien pensants et encadrants, donc comme mes enseignants ou directeurs de mémoire ou de thèse ou de choses comme ça, c'était « mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas tout faire. Forcément, quand vous faites plusieurs choses, vous les faites mal et vous ne terminez rien. » Mais ce qui était complètement faux parce que je faisais tout très bien, très vite. Et ça mettait les gens extrêmement mal à l'aise. Et je m'en suis rendu compte dans mes premières expériences professionnelles où là, en fait, on te déteste, mais vraiment, hein, et ça, c'est violent à prendre en pleine tronche, on te déteste parce que t'es intelligent, parce que tu bosses vite, et parce qu'en fait, tu mets en avant l'incompétence des autres. Et ça, c'est une chose qu'on m'a souvent reproché. J'ai essayé, hein, je t'avoue que j'ai eu toute ma période où je voulais essayer, un peu comme tout le monde, de rentrer dans le moule pour me foutre la paix. Tu vois, tu sais, c'est cette espèce de besoin de bouffer d'oxygène. C'est bon, je te donne ce que tu veux, je te fais ton dossier en 4 jours au lieu d'une heure si tu veux, mais tu me fous la paix. Et me saborder, faire de la médiocrité, enfin faire ce que j'estime être de la médiocrité, c'est extrêmement difficile. Donc, je procrastine, tu vois. Donc, je laissais couler les trucs jusqu'au bout et c'était pas du tout satisfaisant. Donc je me suis dit, pour moi, c'était un réel talent, une réelle compétence d'arriver à être multitâche comme ça, tu vois. Et je me suis dit que je pouvais l'optimiser. Et effectivement, j'ai toujours réussi à tout optimiser quand, tu vois, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'administration culturelle. On me disait, c'est n'importe quoi, ça va nulle part. Si, regarde, moi, mon truc à moi, c'est de donner la culture à tout le monde et d'organiser des événements ou de porter des trucs pour que les gens puissent apprendre. Résultat, ça, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Toujours avec plein de pistes différentes, mais c'est ce que je fais. Donc, le lien, en fait, c'est moi. À partir du moment où j'ai assumé que le lien, c'était ma personnalité, que c'était les projets qui me tenaient à cœur, j'ai rassemblé tout mon univers. C'est vrai que quand je me présente aux gens, je me présente jamais de la même façon. Je joue beaucoup quand je fais des covoiturages à me présenter de façon différente. Tu sais, tu n'as pas fait 3 km, ouais. Que tout le monde dans la voiture, c'est 10 qu'il faisait dans la vie. Donc, moi, j'aime bien dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, j'aime le chocolat, tu vois, ou moi, je danse la bachata, tu vois, c'est des trucs genre, mais attends, mais ça, on s'en fout, avec quoi elle gagne sa vie? Comme si c'était fondamental, avec quoi tu gagnais ta vie. Pour moi, ce qui m'importe, c'est ce qui m'enrichit, tu vois, dans tous les sens du terme. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est qui je suis, c'est mon envie de contribuer au monde. J'ai trouvé ma mission de vie et c'est pas un canal, mais ça passe par plein de choses. Et effectivement, j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une graphiste avec qui travailler pour le site internet qui a compris et qui a réussi à m'aider à présenter tout cet univers. Et je suis très, très heureuse des retours que j'ai, notamment de professionnels atypiques qui me disent, mais moi aussi, je fais plein de trucs, mais quand j'en parle aux gens, ça leur fait peur. Mais toi, c'est cohérent. Et là, pour moi, c'est la plus belle des remarques. Donc, on a la partie consulting pour les entreprises, le côté vraiment, j'allais te dire pro et sérieux, c'est con ce que je te dis parce que tout est pro et sérieux, mais voilà, le côté, je dirais, un petit peu plus corporate, machin, team building, etc. La partie vraiment pleinement moi qui est ce que j'ai développé avec le livre, le coaching pour les personnes atypiques, la chaîne YouTube, bientôt des formations en ligne pour aider les gens à être eux-mêmes. Une chronique vraiment toi où je vais interviewer des gens qui s'épanouissent. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une interview dans un autre sens, un de ces quatre. Et puis, l'univers Skiome. Skiome, c'est à la fois la cerise sur le gâteau et le phare au bout de la baie parce que ce que je veux avec Skiome, si tu veux, c'est vraiment aller au-delà de tout ce que j'ai fait. Skiome, c'est une ONG qui a un écosystème pour aider chaque personne à être bien en étant elle-même, à trouver sa place dans le monde grâce au numérique et à l'intelligence artificielle essentiellement et à une logique de communauté. Et là, aujourd'hui, quand les gens m'en entendent parler, ils me prennent pour une douce rêveuse, ils trouvent ça formidable. Et quand je rassemble les gens autour de la table pour dire « Bon, les enfants, maintenant, on y va, on bosse, là, c'est parti. » Des grands yeux ouverts. Et c'est un projet ambitieux qui fait très peur. Moi, je sais qu'il faut y aller par étapes. Je suis plus dans la conceptualisation que dans le faire, ce qui fait que c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, je cherche à rassembler des gens pour arriver à co-construire ce projet. Donc, c'est trois axes. Si tu veux commencer par une grande enquête internationale sur quels sont les besoins de toutes les personnes atypiques. Parce que en France, on te dit, voilà, tu es considéré handicapé, on va te refourguer un ordinateur à l'école et tu vas voir une psychomotricienne. Mais en vrai, est-ce que c'est ça le problème ? Moi, je vois toutes les familles que je rencontre et que j'accompagne. Il y a d'abord une vraie prise en considération du handicap qui est importante avec un arrêt du rejet de la société. Et pourquoi pas une organisation au niveau de ton job quand tu es maman d'un enfant dyspraxique, c'est pas forcément évident de pouvoir t'organiser. Quand tu es parent d'un enfant HP ou à 3 ans et demi, on te dit on ne sait pas comment on va le garder à l'école. Tu t'en fous de savoir qui va avoir un ordinateur, en fait, tu vois. Donc, voilà, une grande enquête pour rassembler tous les besoins concrets des gens et diffuser ces données-là. Nous, on est là pour ouvrir sur le monde, on est là pour fédérer tout ce qui existe et pour diffuser. Ensuite, il y a 2 projets numériques. Il y a une plateforme qui va générer des apprentissages adaptés à ta neurodiversité et basés sur la neuroscience pour que tu puisses apprendre tout ce que tu as envie d'apprendre. Je reste convaincue qu'apprendre, tu as la connaissance, ça rend libre. Libre parce que tu te connais toi-même, libre parce que tu connais les autres et leur culture et que donc ça ouvre. Et après, donc ça, c'est un énorme sujet. Et après, un serious game pour arriver à bien vivre son hypersensibilité, bien gérer ses émotions quand on est atypique. Et on est complètement d'accord que mon angle d'approche, c'est la neuroatypie, mais ça marche pour les personnes classiques aussi, j'allais dire. Donc voilà, ça, c'est le gros du gros du gros. Et
donc là, ces formations en ligne là que tu vas sortir en septembre, c'est dans le cadre de Skiome ?
Non, les formations, c'est dans le cadre de Pleinement Moi. C'est vraiment voilà, dans le cadre de ski. Alors, je te disais que me nourrir, en gros, c'était chouette, mais je te cache pas de gagner un peu d'argent aussi, c'est cool aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ça va être les formations avec Pleinement Moi, des formations très simples, accessibles, on va dire, à différentes échelles pour arriver à être bien en étant différent. Skiome ne va pas proposer de formation. Ce n'est pas du tout le but.
D'accord. Ok, donc c'est le serious game. Parce que des fois, on fait des formations en format serious game. C'est pour ça que dans ma tête,
oui, tout à fait. Là, si tu veux, voilà, le serious game, c'est vraiment… Alors, on est en pleine expérimentation. Pareil, on recherche des partenaires pour lancer ça. Ce serait un outil en ligne que les gens peuvent utiliser en s'abonnant. Tu vois, on ne sait pas trop encore sur quel modèle on va partir parce que là aussi, on a cherché des partenaires et à chaque fois, on nous dit super, mais quelle est la rentabilité ? Et c'est pas évident de mettre de la rentabilité sur ce type de modèle économique, quoi. Donc, on est en plein dans ces questions-là, mais on y croit.
Alors, comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer tous tes projets, donc à la fois la partie consulting, la partie pleinement moi qui aide les gens à trouver leur voie, la partie SCUM qui est donc la partie ONG pour aider les personnes à l'international. J'en oublie certainement. Oui, tu as ta web TV aussi.
Ouais.
Comment tu fais pour gérer dans ton temps tout ça et pour trouver un fil conducteur pour le présenter ?
Alors, pour gérer mon temps, en fait, j'optimise et je switch. C'est-à-dire que j'ai monté un très grand réseau en France et francophonie sur les thématiques qui m'intéressent. Je fais beaucoup de networking. Et en fait, quand je rencontre une personne, je ne vais pas rencontrer une personne pour SCUM. C'est Claire Street qui rencontre quelqu'un et on voit tout ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, je travaille beaucoup comme ça en multi-connexion avec les gens. Au début, c'est déroutant parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui deviennent des potes. Donc, tu sais plus trop quand tu es en train de prendre l'apéro, si tu es en train de parler boulot, de t'éclater et tout ça. Mais voilà, mon mode de fonctionnement, c'est ça. C'est je crée des multi-connexions avec les gens à l'image de notre cerveau. Et quand on se retrouve sur SCUM, on se retrouve sur SCUM. Quand ça peut me filer un coup de main sur Pleinement Moi, ça le fait. Moi, c'est pareil, j'aide les gens et pas forcément les entreprises dans lesquelles ils sont. Et donc, je suis vraiment sur cette logique. Mon fil conducteur, c'est l'humain. C'est la personne que tu es et ce que tu as envie de donner. Et quand je te dis je switch, c'est-à-dire que je peux vraiment passer d'une activité à l'autre sans que ça me pose de problème. Et j'essaie de... Voilà, j'optimise le temps, les personnes, les moments pour arriver à me retrouver dans tout ça. Ça demande de l'entraînement, on va pas se mentir. C'est pas évident, mais je suis quand même très très bien organisée et surtout je suis bien entourée. Et ça c'est fondamental. Je veux dire, enfin j'ai des personnes sur qui je peux compter. C'est tout bête, hein, mais d'avoir un bon expert comptable sur qui tu peux compter, ça te simplifie la vie. J'ai d'autres boîtes où j'ai des associés, savoir que je peux compter sur eux, ça aide aussi. J'ai un bon réseau de freelance avec qui je travaille et je sais que je peux compter sur eux, donc je suis pas toute seule.
Justement, dans ces associations, est-ce que tu t'associes avec des personnes comme toi ou avec des personnes plutôt complémentaires ?
Je suis avec des personnes complémentaires. Il y a les deux, si tu veux. On est profil. Si ta question, c'est est-ce qu'ils sont tous atypiques ? Non. Une bonne partie. Mais on a toujours une ou deux personnes non atypiques qui nous permettent de rester sur Terre, j'allais dire aussi, et de revenir aux fondamentaux qu'on oublie assez souvent. Ouais. Donc voilà, j'ai un très bon équilibre par rapport à tout ça et j'arrive à être dans cette complémentarité avec chacun. Je vais pas. Ce qui me choque des fois quand je lis les réseaux sociaux, c'est de. Alors j'ai un peu de mal avec ce terme de normaux pensants. C'est de voir le rejet que les personnes atypiques peuvent faire des normaux pensants. Pour moi, ça a pas de but. On est tous vachement complémentaires. Si on est là tous ensemble, c'est pour construire quelque chose et il y a pas à se dire je suis mieux, je suis moins bien. Non, on est juste différents et on se complète carrément, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'on peut avoir parfois ce danger de inconsciemment attirer que des personnes comme nous et s'épanouir dans un environnement où il n'y a que des personnes comme nous, mais du coup ça crée des réelles carences en fait dans un projet.
Tout à fait.
Et on a besoin de personnes qui sont capables de faire.
On a besoin de tout le monde. Exactement. Et puis c'est pas bon non plus pour nous d'être de vivre en mode bulle parce que il suffit que t'ailles, je sais pas moi, acheter ton pain sans gluten et du coup c'est compliqué si tu te retrouves avec d'autres personnes pas comme toi. Donc encore une fois, moi je vais prôner tout ce qui va être diversité, ouverture là aussi par la connaissance, par l'expérimentation. C'est pas évident, mais plus on connecte avec les gens, plus on se connecte à ce qui est différent, et plus on s'épanouit, on trouve sa place.
Ok.
En tout cas, c'est ce qui m'inspire.
Une semaine type dans la vie de Claire, ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à pas mal de restaurants, à pas mal de déplacements, essentiellement sur Paris ou à l'étranger, des horaires de travail complètement décalés. Je peux bosser aussi bien dans une usine de 200 personnes qui tourne sur les 3-8 qu'accompagner un chef d'entreprise à l'autre bout de la France et gérer des familles en stress, en urgence dans la semaine. C'est beaucoup de réactivité et d'agilité. C'est un planning qui change à peu près toutes les 3 heures, ce qui, à mon avis, est très, très dur pour mes stagiaires. Mmh. Et un grand merci à mes stagiaires de là, parce que voilà, ça aide aussi à avancer. Et c'est du fun. Franchement, c'est du fun. C'est, j'aime tout ce que je fais. Et du coup, ça, tu vois, ça me motive vraiment. Et je rencontre des personnes extraordinaires. Et ça aussi, moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, il n'y a jamais de semaine type aussi. Et c'est ce qui me fait du bien. Voilà, la routine, c'est un truc qui me fait faner. Et voilà. Alors, des fois, j'ai besoin de me poser. Donc, des fois, j'ai dit, bah non, aujourd'hui, je ne vais pas aller travailler. Et je vais me poser, je vais bouquiner, je vais méditer. Et ça aussi, avoir la joie de pouvoir le faire, c'est royal, quoi. C'est vraiment royal. Cool. Cette liberté totale. Ouais, ça, c'est cool.
Génial. Donc, si on est atypique, hypersensible et qu'on a un petit peu du mal à vivre avec ça, on peut commander ton livre sur Amazon.
Tout à fait. Me laisser des messages sur la page Facebook. Enfin, voilà, il n'y a pas. Et voir la chaîne YouTube.
Et ta chaîne YouTube aussi, super. Et donc, à partir de septembre, tu sors tes formations. Tu veux nous faire un petit brief?
Ouais, à partir de septembre, en fait, je vais proposer plusieurs niveaux de formation. Donc, pour arriver à comprendre son hypersensibilité, pour arriver à trouver sa place, et puis, bah, bien sûr, pour arriver à s'aimer tel qu'on est. Je suis tout à fait consciente du côté un petit peu cliché de ces intitulés de formation. En fait, on ne va pas tourner autour du pot. C'est toujours ça dont on a besoin. Chacun le fait, j'allais dire, avec son cœur, à sa manière, avec son énergie. Moi, je propose la mienne pour justement, bah, arriver à être pleinement moi. Hypersensible, différent et à bien vivre sa vie.
Cool. Génial. Merci Claire. Je ne sais pas si tu as envie de dire un petit dernier mot de la fin, mais.
Un grand merci à toi, Lucie, pour cette interview, pour cet échange très riche. Et ça fait du bien. On le voit tout de suite quand on connecte avec des gens un petit peu comme nous, le grain de folie. On n'a pas besoin de l'expliquer et on ne se sent pas obligé de le justifier. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai galéré. Je me suis pris des claques. Mais bon sang, aujourd'hui, je suis moi et qu'est-ce que ça fait du bien. Et je vous invite tous, quand vous avez un petit doute, à vous dire, OK, là, aujourd'hui, c'est compliqué, mais au bout, et c'est pas si loin que ça, je peux me sentir bien, je peux m'éclater, je peux faire de ma vie un rêve, je peux décider de créer mon métier, de créer mon modèle social, de créer ma famille telle que je le sens. Dites-vous qu'il y a zéro limite. À partir du moment où ça vous parle à votre cœur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et moi, c'est vraiment le message que je veux transmettre. C'est faites-vous confiance, votre vie, elle est telle que vous choisissez qu'elle est. Et elle peut être magique si vous le décidez.
Merci Claire, merci pour ton énergie, ta bonne humeur, on sent plein d'étincelles positives qui débordent de toi, c'est assez cool. On va continuer à te suivre. Hein.
Merci beaucoup Lucie.
Merci à tous, à bientôt.